Alors, si vous voulez me suivre, on va aller dans Genèse, chapitre 12, les versets 1 à 9. Et l'Éternel avait dit à Abraham, « Va-t'en hors de ton pays et de ta parenté et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai, et je te ferai devenir une grande nation, et je te bénirai, et je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. » Et je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et Abraham s'en alla, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot alla avec lui. Et Abraham était âgé de 75 ans, quand il sortit de Charan, Et Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, et tout le bien qu'ils avaient gagné, et les personnes qu'ils avaient acquises à Charan, et ils sortirent pour aller au pays de Canaan. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. Et Abraham traversa le pays jusqu'au lieu de Sichem, jusqu'aux chênes de Moré. Or, les Cananéens étaient alors dans le pays. Et l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et il bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Et il passa de là vers la montagne, à l'orient de Bethel, et il tendit ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Et il bâtit là un autel à l'Éternel et invoqua le nom de l'Éternel. Puis Abraham partit, marchant de campement en campement vers le midi. Alors, si vous voulez, on va demander la bénédiction du Seigneur pour la compréhension, la réception, l'obéissance à ce qu'il veut nous enseigner. Seigneur, tu nous dis dans ta parole, Seigneur, que lorsqu'on demande l'Esprit, tu nous l'accordes, Seigneur. Bien sûr, on sait que nous sommes possesseurs déjà de l'Esprit. Tu nous as régénérés, tu nous as donné la vie par le Saint-Esprit. Tu nous as fait comprendre notre perdition, tu nous as présenté la glorieuse personne de Christ et le fait que nous sommes aujourd'hui régénérés, que nous sommes réconciliés avec toi. Alors Seigneur, ce matin, nous avons besoin de la lumière de ton Saint-Esprit pour nous éclairer, pour nous guider, pour nous ouvrir l'intelligence à la compréhension du texte que nous allons étudier ce matin. Et surtout, Seigneur, à ce que nous gardions en nous les principes que tu veux nous apprendre et sur lesquels, Seigneur, tu veux qu'on place de l'obéissance, parce que tout cela va t'apporter honneur et gloire, et c'est ce que nous te demandons. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Alors, j'ai intitulé la leçon d'aujourd'hui, pas trop compliquée, « La rencontre d'Abraham ». Je n'ai pas mis « Abraham » parce qu'il n'y a pas encore ce nom-là. Il est encore « Abraham ». Alors, on se souvient, « Abraham » veut dire « Père élevé ». Et Abraham veut dire père d'une multitude. Alors pourquoi père élevé? Il est père élevé parce que Dieu, bien entendu, quelqu'un est très élevé quand Dieu le prend pour devenir un peu le représentant des croyants. Mais père d'une multitude, c'est qu'on va voir que Dieu se sert d'Abraham pour lui donner l'alliance et pour faire des promesses à l'intérieur de l'alliance. Et ça, c'est très important, c'est un des fils conducteurs des Écritures de l'Alliance. Alors, la rencontre d'Abraham avec Dieu, je vois trois idées à l'intérieur du texte. Une rencontre révélée dans les trois premiers versets, les versets 1 à 3. Une rencontre respectée, versets 4 et 5. Et une rencontre récompensée, versets 6 à 9. Alors, on avait déjà mentionné la semaine dernière qu'on est en train d'entrer dans la deuxième division du livre de la Genèse. Tous ceux qui ont étudié le livre de la Genèse voient cette division-là, et elle est claire d'ailleurs. On n'a pas besoin de se forcer les méninges intellectuellement pour la voir. 1 à 11, c'est vraiment l'histoire de la création, l'histoire de la chute, l'histoire de la promesse de Dieu de donner un rédempteur. On a ensuite, on a le déluge, après ça, on a la tour de Babel. Autrement dit, en un mot, c'est l'histoire des hommes sur les 11 premiers chapitres. À partir du chapitre 12, on dirait qu'on parle de d'autres choses. On ne parle plus de l'histoire de l'humanité en général. On parle de l'histoire des patriarches. Qui sont les patriarches? On va voir que aller jusqu'au chapitre 50, on va regarder la vie un peu en détail d'Abraham, d'Isaac, son fils, de Jacob et aussi de Joseph. Et tout ça, ça va nous mener à la fin du livre de la Genèse. Alors aujourd'hui, on est en train de nous introduire dans la section où Dieu nous parle d'un personnage très important tout au long des Écritures, parce que son nom n'est pas mentionné uniquement dans Genèse. Son nom parcourt les Écritures et vient jusque dans le Nouveau Testament. Parce qu'il y a des choses qui sont mentionnées de lui qui sont très importantes. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la période de temps que couvre 1 à 11. 2000 ans, en gros. Rough, comme on dit en québécois. Mais la période qu'on s'apprête à étudier, 350 ans. Donc, le Seigneur a pris 11 chapitres pour nous parler de 2000 ans, puis il a pris 39 chapitres pour nous parler de quatre personnages qui sont importants pour lui, pour l'histoire de la rédemption qu'on parlait ce matin. Et ça s'étend sur une période d'à peu près 350 ans. Donc, le Seigneur prend 11 chapitres pour nous parler de 2000 ans de l'histoire de l'humanité, puis il prend 39 chapitres répartis sur une période de 350 ans pour nous parler de l'histoire des patriarches. C'est quand même intéressant. On va le faire d'ailleurs, une planification pour éventuellement donner une série de messages sur l'Alliance comme telle. L'Alliance, c'est un gros sujet, très, très, très gros sujet. Mais on entre aujourd'hui dans son introduction, dans les versets 1 à 3 de Genèse 12. Quand on étudie l'Alliance, ils sont toujours présents là parce que Dieu commence à expliquer un peu la promesse de salut. Alors, les premiers versets du chapitre 12 constituent une introduction à la théologie de l'Alliance qui fournit un cadre interprétatif à l'ensemble des Écritures. Souvent, ça a été mentionné, l'Alliance, c'est un cadre interprétatif. Autrement dit, on voit l'histoire du salut à travers tout le développement de l'Alliance et c'est très important de le comprendre. Plus on va comprendre ça, mieux on va apprécier les Écritures. Donc, c'est un cadre qui est déterminant pour une compréhension correcte et globale des Écritures. Donc, c'est comme un cadre qui nous aide à comprendre l'ensemble de tout ce qui est dit dans les Écritures, à partir de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et ça nous fournit un référent auquel peuvent s'accrocher les grandes doctrines, et plus particulièrement l'eschatologie et la prophétie. Parce que quand on va comprendre bien l'Alliance, on va voir qu'il y a des aspects là-dedans qui sont reliés à l'eschatologie et à beaucoup de grandes doctrines aussi, le salut, l'élection, la prédestination, et tout ça, c'est rattaché au grand système interprétatif. Donc, à quelque part, c'est sûr que si on adopte l'Alliance comme cadre interprétatif, ce que cette Église fait à cause de la 1689, on adhère à la 1689, la Confession de foi baptiste de Londres de 1689, qui adopte cette position-là et on est d'accord avec ça. Bien sûr, ça va avoir un immense... OK, l'eschatologie. L'eschatologie, c'est la doctrine des choses de la fin. Autrement dit, il y a une eschatologie qu'on peut dire personnelle. Autrement dit, si un homme décède dans son état de pécheur, l'eschatologie, c'est les choses de la fin. Qu'est-ce qui va arriver après son décès? Mais l'eschatologie, c'est aussi l'histoire de ce qui va arriver jusqu'à la fin des temps. Autrement dit, c'est la prophétie. Dieu a fait des prophéties. Il y a une grande partie des prophéties qui sont déjà accomplies, qui sont déjà réalisées, mais il y a une grande partie des prophéties qui restent à accomplir. Alors, l'eschatologie, c'est vraiment parler... Eschatos, ça veut dire « chose de la fin ». C'est parler des choses de la fin. La fin des temps, la fin de l'histoire humaine, etc. Alors, ici, c'est un passage qui va nous présenter sommairement le patriarche Abraham, parce qu'on dit sommairement dans ce petit passage-là, bien sûr, les Écritures vont nous donner beaucoup plus de développement et de détails sur la vie du patriarche Abraham. Alors, ce personnage-là, il prend une place importante et qu'on pourrait considérer comme privilégié dans toute l'Écriture pour les croyants. Pourquoi on peut dire ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre nous que son nom est marqué dans les Écritures et que son nom et qu'il est appelé ami de Dieu? Moi, le mien n'est pas marqué, en tout cas. Je ne pense pas que le vôtre non plus, parce que je ne l'ai jamais lu. Si le vôtre est là, je ne l'ai jamais lu. Alors, ce qui est important de considérer, c'est que si Dieu appelle Abraham ou Abraham l'ami de Dieu, c'est quelque chose de très important qu'il veut nous enseigner par rapport à la foi de cet homme-là, à son caractère et à son obéissance. Jacques, chapitre 2, verset 3. « Ne vois-tu pas que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite? Et ainsi, ce que dit l'Écriture s'accomplit, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez donc que l'homme est justifié par les œuvres, non par la foi seulement. » Ici, il faut expliquer parce que là, on peut partir en peur avec ça. Ce qu'il est en train de nous raconter, c'est pas qu'on n'est pas sauvé par la foi. On est sauvé par la foi, mais la véritable foi produit des œuvres. Et il se sert de l'exemple d'Abraham pour nous montrer qu'Abraham, c'était pas juste une foi dans la tête qu'il avait. C'était une foi qui s'exprimait dans le quotidien, dans la réalité de tous les jours. C'est ça qu'il dit dans le verset 22. « Ne vois-tu pas que la foi, il parle de la foi d'Abraham, la foi agissait avec ses œuvres? » Autrement dit, il est en train de dire qu'un homme qui a la foi ou une femme qui a la foi, il ne faut pas que ça soit uniquement dans la tête que ça se passe. Oui, ça commence dans la tête, mais ça se reflète dans notre comportement, dans nos actions de tous les jours. Alors, Matthieu, chapitre 3, verset 9, nous donne une idée jusqu'à quel point le personnage d'Abraham était important pour les Juifs. Alors ici, on est dans Matthieu 3. Déjà, Christ était sur la terre. Alors, et ici, on a le passage en 3-9. On a le passage où c'est Jean-Baptiste qui parle aux Juifs. Et on va voir que les Juifs voulaient être appelés fils d'Abraham. On va voir, il dit, et lui, Abraham, pas Abraham, mais Jean-Baptiste leur dit aux Juifs de l'époque, « Produisez donc des fruits convenables à la repentance. Et ne pensez pas dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour père. » C'est ça qu'il disait. « On a Abraham pour père, nous. » On est des descendants d'Abraham. Donc, à quelque part, ça se pourrait être significatif pour eux. Mais Jean-Baptiste leur dit, « Écoutez, produisez des fruits de la repentance. » Parce que vous n'êtes pas des fils d'Abraham si vous n'obéissez pas. Il dit, nous avons Abraham pour père, car je vous dis. Alors lui, Jean-Baptiste dit, je vous dis que de ces pierres, des pierres à terre, là, des roches, autrement dit, que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Et dans le verset 10, il dit, la cognée est déjà mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit point de bons fruits est coupé et jeté au feu. Se dire enfant d'Abraham, c'est une affaire. Démontrer qu'on est un véritable enfant d'Abraham, c'est une autre affaire. Et, on va aller dans Galates, chapitre 3, les versets 7 à 9, qui vient nous démontrer, qui vient nous exprimer l'idée que seuls les véritables croyants sont les enfants d'Abraham. Galates, chapitre 3, versets 7 à 9, il dit, « Sachez donc que ceux qui ont la foi, » parle de qui? Parle de nous. Parle de tous les croyants de toutes les époques. « Ceux qui ont la foi sont les enfants d'Abraham. » Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les gentils par la foi, a évangélisé par avance à Abraham en lui disant, « Toutes les nations seront bénies en toi. » Ça vous rappelle-tu un passage qu'on vient de lire, ça? Dieu a dit que les nations seraient bénies en lui. Et après ça, le verset 9, c'est pourquoi ceux qui croient sont bénis avec Abraham qui a cru. Mais tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, puisqu'il est écrit « Maudit est quiconque ne persévère pas à faire toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la loi. » Donc, on va commencer à étudier notre premier passage, les trois premiers versets. Donc, une rencontre révélée. Pourquoi j'ai appelé ça révélée? C'est parce que c'est dans ce passage-là que Dieu appelle Abraham, il se révèle à lui. Un peu comme nous, dans notre vie, il y a eu un moment où on a été mis en contact avec l'Évangile, soit par un traité, soit par un ami qui nous a partagé l'Évangile, soit par un sermon, soit par un livre. Dieu ne manque pas de moyens. Mais un jour, Dieu nous a appelés. Si il ne nous avait pas appelés, on ne serait pas ici ce matin. Dieu nous a appelés. Alors, Genèse chapitre 12, on va voir que c'est un appel, ce n'est pas un appel d'homme, c'est un appel divin. Alors, Genèse 12, verset 1. « Et l'Éternel avait dit à Abraham, « Va-t'en hors de ton pays et de ta parenté et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. » L'appel divin à Abraham ici est clair et explicite. « Hors de ton pays, hors de ta parenté, hors de la maison de ton père, puis je vais te montrer, je vais te diriger vers l'endroit où je veux que tu t'en ailles. » N'est-ce pas que c'était un peu ça qui se passe avec nous autres aussi? Il nous appelle, on sort de notre pays si le Seigneur le veut, on sort de notre parenté dans le sens que bien souvent, quand on se met à agir comme un véritable croyant, souvent ça a un effet sur notre parenté, on est rejeté, souvent. Pas tout le temps, mais souvent. Et le pays que le Seigneur va nous montrer pour nous, c'est quoi? C'est le ciel, le paradis. Il nous montre un pays, il nous dit, il nous en donne le chemin. Alors, pour obéir à ce que le Seigneur lui demande, à l'appel de Dieu, il faut qu'il fasse d'importants sacrifices. Quitter son pays. C'est pas facile, hein, quitter son pays. Moi, j'ai déjà sorti de mon pays, pas souvent, mais quand je suis sorti, le plus longtemps que j'ai resté en dehors, vraiment un an, mais je peux te dire une affaire, je m'ennuyais de m'en revenir chez lui. Parce que mon pays, c'est mes racines, c'est ma parenté, c'est mes amis, c'est et bien d'autres choses. Quitter sa parenté. Là, il lui demandait, il vivait à Ur, en Chaldée. C'était un pays qui était rempli d'idolâtrie. Il adorait des faux dieux. Alors, il lui demande de quitter sa parenté. Imaginez-vous, tu es dans un pays, tu as de la parenté, tu as des amis. Et là, il dit, sors, quitte ton pays, quitte ta parenté. C'était beaucoup, les sacrifices, là. Et après ça, il lui dit, quitte ton foyer, ta famille. Tu quittes tout le monde, puis tu t'en vas, tu obéis à Dieu, puis tu ne sais même pas où tu t'en vas. Et parce qu'il dit, je vais te le montrer, mais là, il faut que tu y ailles par la foi. C'est pour ça qu'Abraham est considéré comme étant le père des croyants, parce qu'il est un modèle d'obéissance lorsque Dieu parle. Alors, on apprend des principes qui doivent être appliqués dans notre vie de chaque croyant. La grâce doit avoir priorité sur les relations familiales. Même si ta famille te disait, si tu viens me reparler de la Bible, je ne te parle plus, puis je ne veux même plus te voir, est-ce que la grâce doit avoir priorité sur l'amour de ta famille? Bien sûr, le Seigneur l'a dit. Il faut faire passer la grâce avant les relations familiales. Et bien entendu, le péché doit être abandonné. Alors, quand tout ton système de pensée, ta référence aux choses spirituelles, c'est dans un cadre d'idolâtrie, puis que le Seigneur te dit, oh, lâche tout ça, puis maintenant, t'arrêtes ça. Et, bien sûr, quand le Seigneur dit, je vais te montrer le pays, ça implique une grande foi, parce que là, tu ne sais pas si tu t'en vas. Il dit qu'il va te donner un pays, mais tu ne sais pas lequel, tu ne sais pas quand, qu'on va prendre combien de temps, dans quel état il va être, quand il va arriver. Il devait avoir beaucoup de petits points d'interrogation dans sa tête. Le verset 2, on voit que l'appel, en fait, est une bénédiction. Donc, l'appel devient une bénédiction. Un peu notre histoire à nous aussi. Il nous appelle, quand on répond à l'Évangile, ça devient une bénédiction. Ça dit, et je te ferai devenir une grande nation. Et je te bénirai, et je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. Donc, le passage nous apprend que l'homme de Dieu devient un centre de bénédiction pour les autres. Croyez-vous ça, que vous êtes un centre de bénédiction? Parce que par nous, Dieu se sert de nous pour répandre l'Évangile, pour faire connaître sa vérité autour de nous. Et par le fait même, on devient un centre de bénédiction pour les autres. On devient maintenant aussi un centre d'influence. Comment on le voit dans le texte? C'est qu'il part avec son neveu. Son neveu, lui, Dieu ne l'avait pas nécessairement appelé. Il dit « Sors ». Il avait demandé. Moi, je pense que le commandement initial était personnel. Mais lui, il avait de l'influence. Il a emmené son père avec lui. Parce que dans le chapitre 11, on a vu qu'il avait emmené Térache avec lui. Il a emmené Lot. Il a emmené sa famille. Donc, à quelque part, et non seulement ça, mais les biens qu'il avait accumulés, et aussi les personnes, parce qu'à cette époque-là, on pouvait avoir des personnes qui devenaient un peu des serviteurs. Donc, à quelque part, tu deviens un centre d'influence parce que tu amènes des gens avec toi. Et quand on est des croyants, c'est un peu ça qui se passe aussi. On devient des centres d'influence. Parce que combien de personnes ont été sauvées par l'intermédiaire d'un autre croyant? Par leur comportement, tu regardes comment ils vivent, puis tu deviens un modèle. Et ça devient aussi un centre de transmission de la foi. Parce que souvent, à cause de notre comportement avec les autres, qu'on leur annonce l'Évangile, qu'on leur parle de la vérité, qu'on leur parle de Christ, qu'on leur parle de leur péché, Dieu se sert de nous pour transmettre la foi. C'est-tu une chose, une bénédiction? Quand quelqu'un vient dire « J'ai été sauvé par le trait que tu m'as donné, par l'Évangile que tu m'as donné, par le sermon que tu vas prêcher », on est-tu béni quand ça nous arrive? Moi, j'avoue que quand ça arrive, quelqu'un me dit « J'ai été sauvé par ta prédication », je dis « Wow! Le Seigneur s'est sauvé d'un instrument aussi pauvre et faible que moi pour t'amener à une chose aussi grande et glorieuse que le salut. » Donc, on devient un centre aussi d'honneur. On devient un centre d'honneur parce que on devient un enfant de Dieu, on devient béni, on devient protégé par Dieu lui-même, un centre d'honneur. On est élevé. Il nous parle de la cendre, puis il nous montre à des hauteurs qu'on n'imagine même pas jusqu'à quel point le Seigneur nous élève. On devient un centre d'honneur. La bénédiction suprême n'est-il pas de connaître Dieu et d'entretenir une relation personnelle avec lui? Quand il dit « Je te bénirai ». Alors Dieu bénit tellement Abraham que celui-ci devient l'exemple typique de ce qu'est la bénédiction et il devient aussi le médiateur de la bénédiction à autrui. Alors l'étendue de la bénédiction d'Abraham ne sera pleinement perceptible qu'au ciel et à la seconde venue de Christ. On pense-tu qu'on sait toute la grandeur qu'il y a de rattacher à la beauté du salut, à sa profondeur, à sa richesse, à tout le côté éternel qu'il y a là-dedans? À l'heure actuelle, on a comme des petits flashs, on a des petites lumières, des fois on comprend les choses, et on est émerveillé. Mais on est loin d'avoir tout compris, tout ce que comprend le salut. On est très, 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 très loin. Même l'éternité ne suffira pas. On disait, maintenant, on parlait d'insondable. La gloire de Dieu est tellement grande que l'éternité, on va chanter ses louanges, on va découvrir des facettes de sa personne et on va louer, 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 louer et mais on n'aura jamais fini d'atteindre le fond. On va avoir découvert, disons que ça va faire 10 000 ans qu'on est là, on va avoir découvert plein de choses. Mais on va pouvoir rester un autre 10 000, puis on va découvrir plein d'autres choses, parce qu'il est inépuisable. Ça, c'est quelque chose, une vérité tellement grande concernant le Seigneur. Et dans le verset 3, donc on parle d'un appel divin, on parle d'une bénédiction divine dans le verset 2. Dans le verset 3, on parle d'une promesse. Dieu dit toujours la vérité. Mais quand il promet quelque chose, on dirait qu'il veut ajouter comme une note de plus de certitude à tout cela. dit « Je bénirai ceux qui te béniront ». Est-ce qu'on bénit, nous, Abraham? Ben oui, on le bénit, parce qu'on sait qu'en lui, on reçoit une bénédiction d'une ampleur telle qu'on n'est même pas conscient de sa profondeur. Et il dit d'autres choses d'importantes concernant ceux qui deviennent des ennemis du salut, des ennemis de Christ, des ennemis de Dieu. Je maudirai ceux qui te maudiront. Même nous, je ne suis pas sûr qu'on comprend vraiment qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de tout cela. Quelqu'un qui maudit le salut de Dieu, qui maudit Dieu, et que Dieu le maudit, la malédiction par Dieu, c'est vraiment l'enfer. Alors, il est en train de dire, « Je maudirai ceux qui te maudiront. » Et, tout à l'heure, on a vu une phrase qu'on a vue dans Jacques, et il disait les mots exacts, « Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » C'est bizarre, hein, parce que quand le Christ est venu sur la terre, les Juifs étaient absolument persuadés que le salut, à part que s'il faisait un prosélyte, qu'il appelait, là, un prosélyte, ça voulait dire qu'il allait vers... il y avait quelqu'un des nations qui venait vers eux, ou eux allaient vers quelqu'un des nations, et là, il en faisait un Juif. Il fallait que tu adoptes leurs coutumes, leurs croyances, leurs livres et toutes leurs affaires. Là, quand tu devenais que tu avais tout adopté ça, là, il disait, tu deviens un Juif, seconde catégorie, mais au moins tu faisais partie du peuple juif. C'est intéressant de noter que dans les promesses divines, parce qu'on peut parler des promesses, on peut parler de la promesse avec multifacette, ou on peut parler des promesses au pluriel. Moi, je dis au pluriel. Les promesses divines des versets 2 et 3 sont au nombre de 7. Bizarre, hein? Le chiffre 7, le chiffre de la perfection. Alors, la première promesse que Dieu fait dans le verset 2, il lui dit que tu vas avoir un héritage, tu vas devenir une grande nation. Si on prend Israël à l'époque, ou qu'on prend Israël aujourd'hui, est-ce que Israël est une grande nation? Si on la compare, si on l'évalue en termes de nombre de population ou en termes d'étendue géographique? Non. Mais est-ce que c'est ça que Dieu voulait dire? Voulais-tu dire qu'il donnerait un grand pays? Il voulait-tu dire qu'il y aurait beaucoup de monde? Oui, beaucoup de monde, mais pas nécessairement en termes de pays physique. Devenir le père d'une grande nation, la nation des enfants de Dieu. On se doit de se rappeler quelque chose si on veut apprécier la foi d'Abraham à ce verset-là. Quel âge avait Abraham? 75 ans. Dieu t'appelle, il dit que tu vas devenir une grande nation, toi, tu as 75 ans, ta femme est stérile, là, tu dis, oh, il y a un problème. Comment je vais devenir une grande nation si ma femme n'a pas d'enfant? Alors, on doit aussi réaliser que une grande nation, ça ne se mesure pas nécessairement au nombre de ses habitants, ni à son étendue géographique. Cependant, la nation juive a joué un rôle primordial dans l'histoire de la préservation de la vérité divine. On va voir un verset du Nouveau Testament qui nous dit ça très clairement après. De l'authentique adoration, autrement dit, c'est par le peuple juif que la vérité divine s'est transmise au cours des siècles, que l'adoration divine, la manière d'adorer Dieu correctement, s'est transmise par eux, et l'accomplissement aussi de l'envoi de la promesse d'envoyer un Messie. C'est réalisé par la nation juive, parce que le Christ lui-même était juif. On va aller dans Deutéronome, chapitre 4, versets 7 et 8. Deutéronome, chapitre 4, versets 6 à 8. Vous les regarderez donc et vous les pratiquerez, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui, entendant tous ces statuts, diront « Cette grande nation est le seul peuple sage et intelligent. » Voyez-vous ici, la grandeur est donnée par Dieu en termes de plutôt, il dit en termes de sagesse, intelligence et de garder ses commandements. Cette grande nation venant de la bouche de l'Éternel, il parle des siens, il parle d'Israël. Cette grande nation est le seul peuple sage et intelligent. Verset 7, « Car quelle est la grande nation qui est ses dieux près d'elle, comme nous avons l'Éternel notre Dieu toutes les fois que nous l'invoquons? » Et verset 8, « Et quelle est la grande nation qui est des statuts et des lois justes, comme toute cette loi que je mets aujourd'hui devant vous? » Autrement dit, la grandeur de la nation, c'est en termes de vérité, en termes de transmission de l'adoration et en termes de la courroie dont Dieu va se servir pour amener éventuellement le Messie. Voyez-vous, on parlait tout à l'heure de grandeur, on disait, ah, ben là, le nombre de personnes, c'est pas tellement important pour évaluer la grandeur de la nation. Mais on parlait dans un autre chapitre du livre de la Genèse, Genèse 13, au verset 16. Et ici, Dieu fait une observation, une promesse à Abraham qui va déterminer, qui nous donne une idée de la grandeur du nombre de personnes qui vont être incluses dans le salut. Il dit, « Et je ferai que ta postérité sera comme la poussière de la terre. » Est-ce qu'il parle nécessairement juste des Juifs ou s'il parle de ceux qui sont en Christ? Ceux qui sont en Christ. Il dit, « Ta postérité sera comme la poussière de la terre. » La poussière de la terre, il y en a-tu des individus là-dedans? Si on peut te raconter les petits grains, là. Il dit que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité sera comptée. Alors, quand on parle d'une grande nation, c'est une nation qui a été temporelle et terrestre pour un bout de temps, mais Dieu est en train de parler de la grandeur de la nation en termes spirituels. Les enfants spirituels qui étaient en Christ et à qui la promesse a été faite sont très, très, très nombreux. Alors, c'est un gros pays, un grand pays. Et dans le verset 2, donc on tombe à la deuxième chose qui est promise, il dit « La prospérité, je te bénirai. » Quand Dieu dit « Je bénirai toi, je te bénirai », peux-tu avoir une petite idée comment le Seigneur va faire ça? On sait qu'Abraham, un petit peu plus tard, ceux qui ont lu la Genèse ou qui ont lu les Écritures, Abraham est devenu riche. Dieu a permis que ses biens prospèrent. Il y a eu une grande prospérité. Alors, le récit de la vie d'Abraham démontre que Dieu a permis qu'il devienne riche. Troisième chose dans le verset 2 qu'il lui dit, la renommée. Aujourd'hui, y a-t-il du monde qui court après la renommée? On dirait que tout le monde court après la renommée, tout le monde voudrait que son nom soit conservé, soit retenu par les générations qui viennent. Le nom d'Abraham parcourt les saintes Écritures et est encore réclamé par les grandes religions monothéistes. Quelles sont-elles? Le judaïsme. Pour eux, Abraham est très, très important. Le christianisme, pour nous, Abraham, est très important. Et l'islamisme. Dans l'islam, le nom d'Abraham est dans leur religion plein. Alors, il dit, ton nom va devenir grand. Ça fait-tu longtemps de ça, là? 4000 ans. Puis là, on est rendu 2000 ans après la venue de Christ. Donc, on est rendu à quelque chose comme 5000 ans après, en tout cas. Il dit, la renommée, on le connaît encore son nom, on connaît encore son nom après toutes ces années-là et par un nombre de personnes incroyables. Quand le Seigneur a dit ton nom deviendra grand, il est devenu grand. Maintenant, une quatrième bénédiction, il lui dit que sa personne va devenir une source de bénédiction. Quand on aime l'eau, quand on était jeune, je me souviens, on allait prendre des marches le long du lac, du long du lac Mégantic, puis il y avait une source. Là. Je me souviens, on allait là, il y avait comme une petite cabane de bois, il y avait un tuyau qui sortait de la terre. On allait chercher de l'eau là. C'était une source. De l'eau de source, ça valait cher. Alors, Il est en train de lui dire que lui va devenir une source de bénédiction de toutes sortes. Alors, souvent, les hommes et les femmes que Dieu bénit deviennent aussi une source de bénédiction pour les autres. Ne sommes-nous pas encore bénis par les écrits et les biographies des grands saints et des grandes saintes? C'est incroyable, hein? On prend un exemple de John Gill. On pourrait multiplier les exemples. Ceux que Dieu a profondément bénis ont encore une influence et une bénédiction sur nous. Augustin, 4e siècle, on lit encore ses écrits. Hey, ça fait longtemps, là. Donc, quand Dieu bénit quelqu'un profondément, ce qu'il fait, ses œuvres, finissent par avoir un impact dans la vie des autres, parfois sur 100, 200, 300, 400, 500, 1000 ans et plus. Alors, Dieu nous fait voir ici que la bénédiction qu'il donne à Abraham s'étendra bien au-delà de la durée de la vie terrestre d'Abraham. N'est-ce pas? La cinquième, dans le verset 3, le début du verset 3, une protection divine. Est-ce que quelqu'un d'entre nous qui n'aimerait pas être protégé par l'Éternel lui-même? Parce que c'est ça qu'il ne dit pas. Il dit, « Je bénirai ceux qui te béniront. » Donc, c'est une protection. Si on reçoit la bénédiction de l'Éternel, donc, à quelque part, il y a une bénédiction à l'intérieur de ça. « Je maudirai ceux qui te maudiront. » Indique une très forte déclaration d'intention. Dieu sera bienveillant envers ceux qui seront bienveillants envers Abraham et ce qu'il représente et ses descendants, donc les Juifs. Et il sera hostile envers ceux qui seront méchants envers Abraham et ses descendants. Quand on regarde ceux qui se sont attaqués au peuple juif dans l'histoire, quand on regarde comment Dieu a intervenu plus tard, c'est vraiment effrayant. On peut avoir peur. Quelle bénédiction que de jouir de la protection divine personnelle et aussi pour sa descendance. Sixième bénédiction, dans le verset 3, « Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » On ne se rend pas compte. On est bénis à cause, on est bénis en lui, parce que la promesse a été faite à lui et à sa descendance et à sa semence. Et qui était sa semence, on a vu dans Galates? Christ. Alors, tous ceux qui étaient en Christ reçoivent la bénédiction et les promesses que Dieu a faites à Abraham. Le Seigneur annonçait déjà que le salut s'étendrait sur toutes les langues, sur toutes les tribus et sur toutes les nations de la terre. Genèse chapitre 18, versets 17 à 19. Ici, on est dans le passage où Dieu commence à parler de l'affaire de Lot et l'affaire du jugement. Alors, il dit, « L'Éternel dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? » Quand Abraham doit devenir une grande nation, une nation grande et puissante, et que toutes les nations de la terre seront bénies en lui, car je l'ai connu, afin qu'il commande à ses enfants et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel pour faire ce qui est juste et droit, afin que l'Éternel fasse venir sur Abraham ce qu'il a dit de lui. » Romains chapitre 4, versets 8 et 14. Alors on voit que quand tout à l'heure on disait que le nom d'Abraham est devenu grand, on va voir que dans plusieurs livres du Nouveau Testament, plusieurs passages du Nouveau Testament, on parle d'Abraham. Abraham, Romains chapitre 4, versets 8 et 14. « Heureux l'homme à qui le Seigneur n'imputera point le péché. Ce bonheur donc n'est-il que pour les circoncis ou l'est-il aussi pour les incirconcis? Car nous disons que la foi d'Abraham lui fut imputée à justice. Mais quand lui a-t-elle été imputée? Est-ce lorsqu'il a été circoncis ou lorsqu'il ne l'était pas? Ce n'a point été après la circoncision, mais avant. Il reçut le signe de la circoncision comme un sceau de la justice de la foi qu'il avait eue étant incirconcis, afin d'être le père de tous ceux qui croient, quoique incirconcis, et que la justice leur fût aussi imputée, et afin d'être aussi le père des circoncis, savoir de ceux qui ne sont point seulement circoncis, mais encore qui suivent les traces de la foi que notre père Abraham a eue avant d'être circoncis. En effet, la promesse d'avoir le monde pour héritage n'a pas été faite à Abraham ou à sa postérité par la loi, mais par la justice de la foi. Car si ceux qui sont de la loi sont héritiers, la foi est anéantie, la promesse abolie. J'avoue que c'est un passage un petit peu... On a besoin d'étudier ce passage-là, c'est un peu difficile. Mais ce qu'on est en train de voir, c'est que Dieu se sert du personnage d'Abraham pour nous montrer que la foi d'Abraham va être donnée, parce qu'on parle là-dedans de deux groupes, les circoncis et les incirconcis. Qui étaient les circoncis? Les Juifs. Qui étaient les incirconcis? Étaient les nations. Alors, le Seigneur est en train de dire que le principe du salut va venir de la même façon par la foi. De la même manière que ça a été imputé ou mis sur le compte d'Abraham, ça va être mis sur le compte des croyants, des incirconcis ou des nations. Galates 3, versets 13 et 14. 13 à 16. Ça, c'est tellement important, là, ce passage-là. Depuis que je prêche sur Genèse, je l'ai dit au moins 3, 4, 5 fois. Mais on va le redire 6 fois, s'il faut. Verset 13, ça dit, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi quand il a été fait malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham se répandit sur les gentils par Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. » Frère, je parle à la manière des hommes. Lorsqu'un contrat a été confirmé par un homme, personne ne le casse ou n'y ajoute rien. C'est le verset 16 qui est le verset clé. Retenez ce verset-là, Galates 3, 16, qui a un lien avec ce qu'on est en train d'étudier. Or, on vient de voir cette promesse-là, n'est-ce pas? Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et à ses postérités », comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme d'une seule, « et à ta postérité qui est Christ ». Les promesses que Dieu a faites à Abraham étaient des promesses faites à Christ et à ceux qui seraient en Christ. Ça, si on ne saisit pas ça, là, on manque le bateau complètement. Il faut saisir ça. Et dans le verset 7, on n'est pas rendu là, mais c'est parce que c'est la septième bénédiction, la septième promesse du passage dans le verset 7, il lui dit qu'il va lui donner un pays, dont Israël. Genèse 12, verset 7, « Et l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et il bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Donc le pays d'Israël est un don de Dieu à son peuple. Alors, on vient de voir les sept bénédictions qui sont contenues dans les versets 2, 3 et 7. Alors, le Seigneur dit que c'est à sa postérité. Maintenant, on va regarder le verset 4 et 5 que j'ai intitulé « Une rencontre respectée ». Pourquoi est respectée? Parce que Dieu demande quelque chose et que le serviteur qui a la foi répond adéquatement, répond intelligemment. Parce que ça dit, verset 4, donc l'obéissance, dis-tu à Dieu, ben là, laisse-moi un petit peu de temps, là, réfléchir à ça, puis je te reviens. Est-ce que c'est ça qu'il a dit? Ben non. Il a dit, et Abraham s'en alla, comme l'Éternel lui avait dit, et Lot alla avec lui. Et Abraham était âgé de 75 ans. Moi, je vais avoir 70 dans un mois. Puis, il me semble que à 75 ans, on n'a pas le goût de déménager comme ça. On n'a pas le goût de changer de pays. On n'a pas le goût de... Et puis, d'emmener toutes tes bébelles avec toi, parce qu'il a tout emmené toutes ses affaires. 75 ans. En plus, ta femme est stérile. Puis, le Seigneur dit qu'il va faire une grande nation avec toi. À quelque part, ça prend-tu de la foi ou ça n'en prend pas? Ça n'en prend pas mal, je trouve. Alors, l'appel de Dieu sur la vie d'un de ses enfants est un acte de souveraineté. Il faut faire le lien entre ce que Dieu fait là et ce qu'il a fait dans nos propres vies. ça l'implique donc un acte de souveraineté. C'est Dieu qui fait grâce. C'est lui qui décide qui sauve. Ensuite, ça l'implique une séparation du mal. On ne peut pas juste dire on devient chrétien puis ne pas se séparer du mal. Il faut se repentir. Il faut s'éloigner des choses. Alors, il était dans un pays idolâtre. Pas pour rien que Dieu l'a sorti de là. Parce que quand on vit dans un pays qu'on est entouré d'idolâtrie, ben tôt ou tard, on va devenir idolâtre nous-mêmes. Alors, Dieu fait sortir, un peu comme nous, il nous demande de sortir du monde, parce que le monde a une mauvaise influence sur nous. Il faut faire attention. On a fait une série sur le monde. Alors, du monde, une séparation du mal, du monde et du péché. Romains 9, versets 15 et 16. Pour faire un lien entre ce que Dieu fait à Abraham et faire un lien avec ce qu'il a fait dans nos propres vies. Car il a dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à celui à qui je ferai miséricorde, et j'aurai pitié de celui de qui j'aurai pitié. Cela ne vient ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. » Alors, notre appel de sortir du monde, de recevoir la personne de Christ, d'être sauvé, dépend d'un acte souverain de Dieu. Luc 14, versets 26 et 27. Ici, le Seigneur nous dit quelque chose d'important parce que on voit qu'à Abraham, il n'a pas hésité à abandonner son pays, sa famille, sa parenté. Et est-ce que le Seigneur Jésus, quand il est venu, il nous a demandé la même chose? Ben oui. Luc 14, versets 26 et 27. Si quelqu'un vient à moi, et ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, plus encore sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Moi, je me souviens d'une femme qui était venue me voir, elle était toute découragée. Si Dieu, voyons donc, Seigneur nous demande d'haïr nos frères, nos pères, notre sœur. Il dit, il faut que ton amour de Dieu, ton amour de Christ soit tellement haut et élevé que l'amour que tu portes à ton frère, à ta sœur, soit comme ça serait de la haine comparativement. Voyez-vous? Il est en train de lui dire, quand tu me suis, il faut que l'amour que tu me témoignes soit tellement élevé que l'amour que tu témoignes là, autour de toi, ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, là, ça a l'air de la haine. C'est haut, là. Pas mal haut. Et en plus, il dit qu'il faut porter sa croix. Et 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, le Seigneur veut nous apprendre un autre principe, que quand on a la foi, on ne marche pas par la vue, on aimerait bien ça voir. Moi, j'aimerais bien ça voir. Mais le Seigneur nous dit qu'on ne marchera pas par la vue, on va marcher par la foi. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, car nous marchons par la foi et non par la vue. Est-ce qu'Abraham voyait le pays? Est-ce qu'Abraham voyait le chemin? Est-ce qu'Abraham voyait les moyens que l'Éternel prendrait pour l'amener à la destination? Non! Il marchait par la foi, comme nous, on se doit de marcher par la foi. Maintenant, son obéissance était très audacieuse. J'appelle ça audacieux, parce que dans la deuxième partie du verset 4, elle dit 115 ans quand il est parti. Alors, prêtez foi aux promesses divines avait exigé une foi forte parce qu'il avait déjà 75 ans, il n'avait pas d'enfants, il ne pouvait pas dire, ben là, si ça ne vient pas de moi, ça va venir de mes enfants. Il n'avait pas. En plus, sa femme était stérile. Et à cette époque-là, une femme stérile, c'était vu comme une malédiction de Dieu. C'était vu comme quelqu'un qui est privé d'une grande bénédiction terrestre. Alors, imaginez-vous, Dieu fait une promesse à quelqu'un. Il est marié avec une femme. Il sait qu'il ne peut pas aller avec les autres femmes. Il faut que ça vienne de sa femme. Puis sa femme est stérile. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique une foi en la capacité de Dieu de vaincre un obstacle aussi important que la stérilité d'une femme et que la véritable postérité viendrait par cette femme-là. Et c'est ça qui est arrivé aussi. On sait qu'il y a eu des petites histoires, là. Abraham, il a fait des erreurs, sa femme a fait des erreurs, mais éventuellement, la promesse de Dieu a fini par se réaliser. Et dans le verset 5, on a aussi la question qu'on parlait au début, que sa foi est inspirante pour les autres. Et Abraham prit Saraï, sa femme, Lot, fils de son frère, son neveu, et tout le bien qu'ils avaient gagné. Imaginez-vous, je ne sais pas comment ils l'avaient, là, mais à l'époque, faire un déménagement, c'était pas des vannes de 45 pieds, là. C'était des voyages avec des roues en bois, puis c'était pas drôle, là. Il fallait qu'un gars soit décidé, là, qu'il soit sûr que c'est oui, c'est ça que Dieu veut, puis je pars avec mes bebelles, j'en mets toutes mes bebelles, puis je m'en vais, là, avec ma famille, avec ceux qui ont bien voulu le suivre. Qu'est-ce qu'on voit là-dedans? On voit que quand quelqu'un a la véritable foi, ça devient inspirant pour les autres. Pourquoi Lot a décidé de suivre son oncle? Il aurait bien pu dire, ben là, moi, je récite, là, à U, on est bien, ça, là. Moi, je m'embarque pas d'un voyage pareil. Donc, la foi de son oncle avait une influence sur lui. Non seulement sur lui, sur son épouse, sur son père, et sur toute sa maison. On parle de sa maison, donc il y avait probablement des serviteurs qui, à cause de la foi d'Abraham, donc qu'est-ce que ça nous apprend sur nous? Notre foi devient inspirante pour les autres. Donc, il y avait une foi suffisamment forte pour devenir un exemple pour son épouse, son neveu, Lot et toute sa maisonnée. Ça ne précise pas le nom, mais il devait en avoir quand même un nom assez important. Sa décision était courageuse et définitive, amener tous ses biens avec lui dans sa nouvelle contrée. Il était fortement déterminé, confiant et persévérant puisqu'il atteignit le pays de Canaan. Là, j'ai pas regardé sur des cartes puis le nombre de kilomètres qu'il y avait entre où ce qui était, mais c'était loin. C'était vraiment très loin. Alors, il fallait qu'il soit persévérant pour finir par se rendre en Canaan ou là où Dieu voulait qu'il aille. Et les versets 6 à 9, c'est une rencontre qui est récompensée, mais au début, ça pouvait être décevant humainement. Pourquoi? Parce que le verset 6 dit « Abraham traversa le pays jusqu'au lieu de Sichem, jusqu'aux chênes de Moré. Or, les Cananéens étaient dans le pays. Dieu dit qu'il va te donner un pays. Tu arrives dans le pays et tu vois que c'est des idolâtres qui vivent là. Tu vois que c'est des personnes qui ne sont pas des voisins faciles. » Tu dis, bon, comment on va prendre possession de tout ça? Là? Alors, imaginez-vous qu'est-ce que ça pouvait demander. Alors, il arpente le pays, Abraham, et il constate la présence des Cananéens. Et les Cananéens étaient des descendants de Cam. On se souvient qu'est-ce que Dieu avait dit. Alors, les Cananéens furent condamnés à être détruits à cause de leurs péchés. Donc, un petit peu plus loin dans les Écritures, on nous apprend quelle sorte de monde c'était les Cananéens. Deutéronome, chapitre 20, versets 17 et 18, ça dit « Car tu ne manqueras point de les vouer à l'interdit. » Vouer à l'interdit, là, ça voulait dire toutes les détruire. Non seulement les personnes, mais leur possession. Tu ne manqueras point de les vouer à l'interdit, les Hétiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Héviens, les Jébusiens, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a commandé, afin qu'ils ne vous apprennent pas à imiter toutes les abominations qu'ils ont pratiquées envers leur Dieu et que vous ne péchiez pas contre l'Éternel, votre Dieu. C'est à quoi l'idée de vouloir les exterminer? À cause de la contagion du péché. Quand tu es entouré d'idolâtres, la tentation de t'en aller dans la même direction que l'autre est très forte. Alors, peut-être qu'Abraham a connu un moment de découragement. Voyons, il arrive dans mon pays que le Seigneur me donne, puis un des ennemis, des idolâtres, ça devait être un petit peu décourageant. Mais dans le verset 7 et 8, on voit une autre chose intéressante. Dieu intervient dans nos vies à des moments où on est affaibli spirituellement, dans le sens... Mais oui, on donne. Mais oui, ici, regarde-moi ça. Dieu apparaît à ce moment-là. Est-ce que ça ne nous enseigne pas quelque chose sur nos propres vies et les relations que Dieu a avec nous aussi dans nos moments de découragement? Et ça dit dans le verset 7 et 8, « Et l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et il bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Et il passa de là vers la montagne à l'orient de Bethel, tendit ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Et il bâtit un autel à l'Éternel et invoqua le nom de l'Éternel. Alors ici, il expérimente le réconfort de la présence divine. Et dès que l'Éternel lui apparaît, ça a un effet sur lui, celui de l'adoration. Bâtir un autel, c'est vraiment une image de volonté de rendre grâce à Dieu. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les noms Bethel et Haï, qu'est-ce que ça signifie? Parce que ça dit qu'il s'est installé entre les deux. Bethel signifie maison de Dieu et Haï signifie ruine. Alors, il y a beaucoup d'auteurs qui voient là-dedans une allusion que le croyant va connaître une lutte constante, féroce, entre ces deux natures, la spirituelle et celle contrôlée par le Saint-Esprit. Bethel, c'est la maison de Dieu. L'autre, c'est la ruine. Donc, à quelque part, quand tu es entre les deux, tu n'es pas dans une position très confortable. Et verset 9 nous donne une autre constatation de son entrée dans son nouveau pays que Dieu lui donne. Puis Abraham partit marchant de campement à campement. Ça vous fait-tu résonner quelque chose? On est des pèlerins. Un pèlerin, ça ne s'installe pas sur la terre. Ça déménage de campement en campement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la direction qu'il est en train de prendre. Il s'en va vers le midi. Et le midi, c'est à quoi dans ce pays-là? L'Égypte. Quelle est l'image que ça vous fait monter à l'esprit? Que même régénéré, quand on est entre la maison de Dieu et la ruine, on est porté encore à prendre la mauvaise direction. Et on va le voir là, dans la leçon de la semaine prochaine. Il va s'en aller en Égypte parce qu'il y avait une famine dans le pays. Il a eu peur, il n'a pas fait confiance à Dieu. Et ça lui a amené toute série de problèmes. On va terminer en allant lire un petit peu le passage de Hébreux 11, versets 8 à 19. Et Hébreu, voyez-vous le nombre de livres? On a vu Galates, on a vu Romains, on a vu Hébreu, qui parle d'Abraham, Abraham, Abraham, Abraham. Donc, quelque part, c'est un personnage important. Hébreu 11, versets 8 à 19. On se souvient que Hébreu 11, c'est le passage des héros de la foi. Donc, si c'est un héros de la foi, Dieu veut nous le présenter comme quelqu'un qui est un modèle de foi. Il dit, par la foi, Abraham étant appelé, obéit pour aller au pays qu'il devait recevoir en héritage, et partit ne sachant où il allait. Verset 9. Par la foi, il demeura dans la terre qui lui avait été promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, avec Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a des fondements, dont Dieu est l'architecte et le fondateur. Par la foi aussi, Sarah reçut la vertu de concevoir, et malgré son âge, elle enfanta parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Verset 12, c'est pourquoi d'un seul homme qui était déjà affaibli, il est né une multitude aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer qui ne se peut compter. Tous ceux-là sont morts dans la foi, sans avoir reçu les choses promises, mais les ayant vus de loin, crus et embrassés, ayant fait profession d'être étrangers et voyageurs sur la terre. Car ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie. En effet, s'ils se fussent souvenus de celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu ne dédaigne pas d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Par la foi, Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut éprouvé et que celui-ci avait reçu les promesses, offrit son fils unique. Imaginez-vous, quand il en a eu un, le Seigneur lui a dit, offre-le en sacrifice. Alors, il y a eu une vie un petit peu éprouvée, qu'on peut dire, dont Dieu lui avait dit, c'est en Isaac que ta postérité sera appelée, ayant pensé en lui-même que Dieu pouvait même le ressusciter des morts, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Alors, il se dirige vers le midi, qui est l'Égypte. Ne voyons-nous pas là notre tendance naturelle à aller dans la mauvaise direction? Trois applications. Le Seigneur nous instruit de plusieurs façons dans ces versets-là. Apprenons d'abord la grâce divine. Dieu appelle ses élus souverainement, puis il leur montre la direction, les guide infailliblement, les protège et les bénit durant leur pèlerinage. N'est-ce pas notre vie? C'est celle d'Abraham, c'est la nôtre aussi. Deuxième application, prenons Abraham comme modèle d'obéissance, immédiate, irréversible. Il n'a pas dû me laisser mes biens là, je reviendrai plus tard. Il a emmené ses biens, alors c'est irréversible. Elle était contagieuse aussi parce que, dans le fond, il a même convaincu ses proches de le suivre. Et persévérante, J'imagine la longueur du voyage. Je serais curieux de le compter, là, combien 4 kilomètres, comment ça a dû y prendre de temps. Ça a dû être très long. Alors, ça demande de la persévérance. Et troisième application, distinguons la main de Dieu dans nos circonstances providentielles. Même nos errances sont décrétées par le Seigneur. Nos épreuves sont permises par notre grand Dieu et nos consolations sont contrôlées et envoyées au bon moment par le Seigneur. Tellement riche ce texte-là. Que notre glorieux Seigneur soit béni, adoré et exalté pour sa grâce et sa direction dans nos vies.